je ne sais pas si dans les synagogues, il y avait aussi autant de musique que ça. Hein. Enfin, dans le temple, il y en avait. Matthieu, chapitre 18, verset 18, s'il vous plaît, avec moi. Bonsoir à tous. Alors, nous qui sommes là au Château Sanctuary, nous avons, je dis ça pour ceux qui nous rejoignent sur Internet et qui ne nous connaissent pas bien, nous avons déjà chanté, nous avons déjà prié, et là maintenant, eh bien, nous prenons la parole de Dieu. On ne veut pas, c'est pas comme vous êtes chez vous et devant votre ordinateur, on ne veut pas vous imposer tous nos chants et tout ça, donc on en vient directement à la parole de Dieu. Et voilà, c'est parce que la parole de Dieu, c'est très important, c'est notre nourriture. Donc, les chants, vous en avez dans vos églises, vous pouvez aussi chanter chez vous, et voilà. Mais je pense que ça serait bien qu'on mette aussi sur Internet nos chants, mais dans un fichier à part, et si les gens veulent les écouter, ben, ça serait bien pour eux, je pense. Enfin, dites-le nous, vous qui écoutez Internet, dites-nous si ça vous plairait d'avoir nos chants, comme ça, sur un fichier que vous puissiez écouter. Matthieu 18, 18, vous y êtes ? Matthieu 18, 18. Je lis dans la parole vivante, la version d'Alfred Kuhn, de Suisse. Vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous aurez défendu ou permis sur la terre sera sanctionné par l'autorité divine. Dans vos Bibles, c'est écrit tout ce que vous aurez lié ou délié. Ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Hein. Et j'ajoute que si deux d'entre vous se mettent vraiment d'accord ici-bas pour demander quoi que ce soit dans la prière, cela leur sera accordé par mon Père céleste. Partout, en effet, où deux ou trois sont ensemble, unis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Amen. Vous voyez, c'est intéressant cette version-là. Hein. C'est intéressant. Je vous parlais dernièrement du pouvoir qu'il y a dans le nom de Jésus. Je voudrais quand même préciser que ce pouvoir, ce n'est pas quelque chose à quoi on peut avoir recours en cas de crise, subitement, comme ça, pas du tout. Le pouvoir du nom de Jésus, eh bien, c'est le fruit d'une discipline. Alors, on parle très peu de discipline dans les milieux chrétiens. On parle de l'abondance, on parle de guérison, on parle du diable qui est vaincu, mais Jésus a voulu des disciples, c'est-à-dire des gens qui se disciplinent, qui ont une discipline de vie. Alors, c'est important. Je crois que si nous voulons employer le nom du Seigneur Jésus-Christ tel que la Bible nous dit que nous pouvons l'employer, eh bien, nous aurons des bons résultats si le fait d'employer le nom de Jésus est le résultat de notre position consciente, notre position spirituelle consciente. C'est le résultat de la puissance du nom de Jésus dans la bouche et le cœur de quelqu'un, eh bien, c'est le fruit, c'est le résultat d'une vie de disciple. Vous devez avoir ce pouvoir avant d'avoir besoin de ce pouvoir. Vous voyez, mes frères et sœurs? Vous voyez, en nous donnant ce pouvoir, Dieu s'engage envers nous. Et la question est donc, peut-il s'engager vis-à-vis de moi? Ça, c'est mon téléphone qui sonne. Vous voyez, il y a des gens qui ne savent toujours pas que je prêche l'évangile. On va faire une petite farce, on va répondre, on va voir ce que ça donne. Allô, bonjour, c'est Michel Janton. Allô? Ah non, je ne suis pas sur la messagerie, non. Oui. Oui. Au sujet de ma 407 coupée. Déjà, écoutez, est-ce que je peux vous passer quelqu'un là, parce que je suis en train de faire une conférence et je me vois mal vous répondre, j'ai tout un auditoire devant moi. Je vais vous passer mon gendre, il va vous expliquer. Hein. Je vous remercie, un instant. Voilà, c'est rapide, hein. Eh bien, voyez, au milieu de la réunion, quelqu'un qui veut acheter ma voiture. C'est formidable, j'ai mis ma voiture en vente. Donc, je vous disais qu'employer le nom de Jésus-Christ, on ne peut pas le faire comme ça, ce n'est pas magique. Le résultat, la puissance, la manifestation de la puissance, eh bien, elle arrive seulement dans la vie de ceux qui se sont consacrés, qui sont disciplinés. Parce que Dieu, il s'engage envers nous. Et la question est, peut-il s'engager vis-à-vis de moi? Peut-il s'engager vis-à-vis de vous? Jésus donne l'autorisation de faire des choses en son nom. Il prend donc la responsabilité de ce que tu vas faire avec son nom. Vous voyez? C'est comme s'il te donnait son chéquier avec tous les chèques signés à l'avance. Dieu ne va pas donner la possibilité à n'importe qui de se balader avec un tel chéquier, vous vous rendez compte? Tout pouvoir. Jésus prend soin de son nom. Dans les 10 commandements, il a dit « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. » On ne peut pas jouer avec le nom de Dieu. Dieu fait attention à la manière dont son nom est employé. Puisqu'il prend la responsabilité de tout ce que tu vas faire. Alors je vous le demande, Dieu peut-il s'engager lui-même vis-à-vis de nous en tant qu'église locale? Dieu peut-il s'engager vraiment lui-même vis-à-vis de vous personnellement? Peut-il vous confier sa signature? Chaque chrétien doit d'abord régler cette question. Chaque chrétien doit régler cette question avant d'ouvrir la bouche pour prier, ou avant d'ouvrir la bouche pour commander ceci ou commander cela, commander aux éléments ou commander aux démons. Et ensuite, il pourra employer le nom de Jésus et se mettre à lier ou à délier sur la terre pour que Dieu délie ou lie dans le ciel. Frères et sœurs, à cause de la réalité de la confiance qu'il place en vous, vous pouvez agir comme son représentant dans le monde. Alors, Dieu veut-il, Dieu peut-il vous soutenir? C'est ça la question. Beaucoup de gens disent « Oh, mais j'ai prié et j'ai fait tout correctement comme la parole de Dieu dit. J'ai prié le Père au nom de Jésus-Christ. J'ai chassé les démons au nom de Jésus-Christ. J'ai imposé les mains aux malades au nom de Jésus-Christ. Il ne s'est rien passé. Pourquoi? Pourquoi ?» Beaucoup de pasteurs en sont venus à dire « C'est parce que vous n'avez pas la foi que vous n'avez pas été guéri quand j'ai prié pour vous. » Ils ne se mettent pas en question eux-mêmes. Est-ce que Dieu leur a vraiment donné le pouvoir de se servir de son nom? Vous voyez? Je vais vous donner quelques critères pour fixer votre attention, pour vous faire prendre conscience de la foi que Dieu a envers vous et de comment cela fonctionne. Premièrement, avez-vous la révélation du plan éternel de Dieu? Je dis bien la révélation. Je vous donne un exemple, comme une parabole. Si vous recevez un colis de chez Ikea, je dis pour nos frères africains, un colis de chez Ikea, qu'est-ce que c'est? Par exemple, vous voulez commander un meuble, c'est une société qui s'appelle Ikea, donc je fais de la pub en plus, et puis, il vous envoie un paquet, et dans ce paquet, vous avez toutes sortes de planches de vis et de machin, et vous devez monter vous-même le meuble. Est-ce que vous voulez monter ce meuble? Oui, vous voulez monter ce meuble. Mais avant de le monter, il faut d'abord savoir ce que c'est ce meuble. Parce que ça peut être une table, ça peut être un lit, ça peut être une étagère, ça peut être une armoire, ou qu'est-ce que ça peut être? Vous ne pouvez pas vous lancer dans la construction sans savoir ce que vous construisez. Vous ne pouvez pas travailler intelligemment sans un plan. Dans la boîte, avec le carton, avec les vis, avec les planches, il y a un plan. Pas toujours facile à comprendre d'ailleurs. En général, quand je reçois un carton Ikea, je le donne à quelqu'un d'autre pour le monter, parce que sinon je pique une crise de nerfs. Par exemple, en Afrique, je vais faire de l'évangélisation. Mais pourquoi? Ce travail doit être intégré dans le plan de Dieu tout entier. Donc, les évangélisations que je fais là-bas, ce ne sont que des moyens pour arriver au but de Dieu. Je ne vais pas faire de l'évangélisation comme ça. Ce n'est pas parce que ça me plaît ou parce que je veux que des gens soient sauvés ou que des gens... Non. Le but de Jésus, c'est quoi? C'est sa prééminence. Alors, mes évangélisations, elles contribuent à trouver des nouvelles personnes sur qui Jésus aura la prééminence. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Si on ne comprend pas le plan global de Dieu, alors on va taper dans l'air, on va faire un peu comme Don Quichotte, n'importe quoi. Dans l'Église primitive, chaque croyant entrait dans le dessein éternel de Dieu. Ils étaient formés pour ça. On va lire. Éphésiens chapitre 1, non, chapitre 4, pardon, versets 11 à 17. Je vous lis toujours dans cette parole vivante. Vous lirez après dans vos versions. Écoutez bien, Éphésiens 4, 11 à 17. Écoutez ce qu'il dit là. Les dons aux hommes sont variés. Dieu nous a donné certains frères comme apôtres, d'autres comme porte-parole de Dieu, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme bergers, instructeurs. Tous ces dons ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens, afin que tous soient convenablement équipés pour leur service et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps de Christ. Il nous a donné ces frères pour que nous parvenions à une réelle unité par le moyen de la foi et d'une parfaite connaissance du Fils de Dieu, et que nous devenions majeurs en atteignant une virile maturité, que notre personnalité atteigne un plein épanouissement sur le modèle de Christ, et que tous ensemble nous formions cet homme parfait qui constitue la plénitude de Christ. Car il ne faut pas que nous restions toujours de petits enfants ressemblant à des esquifs ballottés par les flots et entraînés ça et là par chaque coup de vent, c'est-à-dire chaque doctrine en vogue, que nous soyons à la merci d'hommes instables et sans scrupules qui, par leur art de présenter leurs inventions mensongères, cherchent à nous entraîner dans des séductions de l'erreur. Non, Dieu veut que nous maintenions fidèlement la vérité dans l'amour et que nous la prêchions par toute notre vie. Ainsi, nous entrerons dans une communion toujours plus intime avec celui qui est la tête de l'Église, le Christ vivant. Nous grandirons avec lui à tous égards, jusqu'à ce que nous ayons pleinement atteint sa mesure. Car c'est de la tête que tout le corps tire cohésion et unité. C'est en restant dans sa dépendance que l'ensemble, bien lié et coordonné grâce aux différents muscles et ligaments, forme une structure harmonieuse, à condition que chaque organe remplisse son office suivant la fonction qui lui a été assignée et selon les forces et capacités qui lui ont été données pour suffire à ses besoins. De cette manière, tous les membres contribuent ensemble dans un esprit d'amour à la croissance organique du corps qui s'élève comme un édifice. Voilà, mes frères et sœurs, il faut que le but de notre vie se confonde avec les desseins éternels de Dieu. On n'est pas là simplement parce que c'est sympa, on va à l'église, on vit en communauté pour nous autres, c'est sympa, on se met à table, c'est déjà prêt, c'est super. Ou alors les sœurs qui font le repas, oh là là, c'est difficile tous les jours. Mais non, c'est pas ça la vie. Le gazon pousse, et, oh, il faut encore aller le tondre, mais c'est pas ça la vie. Il y a un dessein de Dieu. L'évangélisation, ce n'est pas la vie. Toutes ces choses qu'on fait, ce n'est pas la vie. Mais c'est tout ça ensemble qui fait la vie. Vous comprenez, mes frères et sœurs? On va regarder autre chose. Éphésiens 1, 8 à 12. Cette grâce, il l'a déversée sur nous à profusion. Elle a débordé dans nos vies. Elle a ouvert nos yeux à la vérité. Sous son influence, se sont épanouies en nous de nouvelles facultés d'intelligence et de compréhension qui nous ont rendus capables de saisir le secret du plan de Dieu. Vous voyez ? Ce plan que, de toute éternité, sa bienveillance lui a inspiré, il le portait dans son cœur pour le mettre à exécution au moment opportun. À présent, il nous l'a dévoilé en Christ. Vous voyez pourquoi il est nécessaire d'être en Christ ? Parce que c'est en Christ que c'est dévoilé, pas ailleurs. Et quel est l'aboutissement final de ce plan? Écoutez bien. Lorsque les temps seront mûrs pour cela, tout ce qui existe dans le ciel et sur la terre, l'univers visible et invisible, sera restauré, unifié et rassemblé sous le gouvernement de Christ. Voyez, je vous parlais de la prééminence. Tout trouvera sa perfection et son accomplissement en lui. L'histoire de l'humanité sera résumée et achevée en lui. Le cosmos tout entier ne formera plus qu'un corps, dont Christ sera la tête. Et, Dans tout ce qui appartiendra un jour à Christ, nous aurons notre part. Car c'est en Christ que cela se fera, et c'est en lui aussi que nous avons été déclarés héritiers par décret de celui qui a le pouvoir d'accomplir tout ce que sa volonté décide. Nous avons été destinés à vivre pour célébrer sa gloire, nous qui sommes les premiers êtres de la création à placer notre espérance en Christ. Depuis longtemps, nous les Juifs, nous avons attendu ardemment notre Messie. Maintenant, nous pouvons contribuer à la louange de sa gloire en vivant à son honneur. Et vous aussi, chrétiens d'entre les païens, après avoir entendu le message et la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, vous avez mis votre confiance en lui. Frères et sœurs, après avoir lu ça, avez-vous la conviction d'être lié, engagé dans ce dessein, dans ce plan qu'il a tenu secret pendant des millénaires? Ou est-ce que vous avez simplement une vie où il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire, il faut être gentil, il faut payer ses impôts, il faut servir son frère, sa sœur, il ne faut pas ronchonner, il faut être positif? C'est quoi votre idée du christianisme? Alors, ça c'est établi, quand c'est établi dans la vie du disciple, dans la vie de l'église locale, alors toutes les petites questions de la marche quotidienne, eh bien ça se résout à mesure et ça va de soi. Le deuxième critère, la deuxième chose à savoir, c'est que, d'abord, premièrement, je vous rappelle, c'est de connaître le plan éternel de Dieu. Deuxième chose, est-ce que ce que je fais, ça a été conçu par Dieu ou par moi? Si vous dressez vos plans et qu'ensuite vous demandez à Dieu de les bénir, ben ça ne marche pas comme ça. Le nom de Jésus, ce n'est pas un cachet pour autoriser les œuvres conçues par un homme. Quand c'est comme ça, ça donne une religion. Dans Jean 5, 19, Jésus dit, le Fils, il parlait de lui-même, ne peut rien faire de lui-même. Maintenant, les apôtres, tout de suite après Jésus-Christ, ils ont essayé de faire par eux-mêmes. Et moi aussi, d'ailleurs, je ne peux pas leur jeter la pierre. Ils ont été bloqués très souvent. On trouve ça dans Actes 16, 6, par exemple, où il est dit que Paul et ceux qui étaient avec lui furent empêchés d'annoncer la parole en Asie. Empêchés par qui? Par le diable? Non, pas du tout. Verset 7, c'est par le Saint-Esprit de Jésus qu'ils ont été empêchés. Et ça, c'est écrit dans le livre des Actes. C'est le livre des Actes, c'est pas le livre des inactivités. Vous voyez, ce qui est important, c'est pas ce que nous faisons. Parfois, il faut apprendre à ne pas faire pour lui. Écoutez ce qu'il veut. Il nous faut apprendre que si Dieu n'avance pas, nous n'avons pas à avancer. Alors, nous avons à connaître la volonté de Dieu dans notre sphère particulière de travail, dans notre propre vie, aussi la volonté de Dieu pour notre Église. Le principe éternel de toute œuvre de Dieu, c'est au commencement, Dieu. C'est le principe. Et là, moi, j'ai un problème. Mais j'apprends. Ma façon à moi, c'est d'être premièrement à l'écoute de ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible dit? Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Bon, ben alors j'achète un billet d'avion et j'y vais. Surtout là où il y a des besoins, ça c'est ma deuxième chose. D'abord, premièrement, est-ce que la Bible dit? Ensuite, il faut répondre aux besoins. Je ne vais pas aller évangéliser à Springfield où il y a 3 églises à chaque carrefour. Quoique, il doit encore y avoir des inconvertis, mais enfin bon. Donc, qu'est-ce que la Bible dit? Ensuite, là où il y a des besoins. Et puis ensuite, si je vois qu'il y a un abus de la part de ceux qui m'invitent, ou des choses comme ça, ou des tromperies, alors je m'abstiens. Et finalement, quand il y a un manque de moyens financiers, ben pour moi, c'est le signe que là, voilà, j'avais raison, il y a un empêchement du Saint-Esprit. Mais j'apprends. J'apprends, parce que chaque cas est différent. Et puis, je suis obligé d'apprendre dans la contemplation, parce qu'il y a des subtilités, mais je vous en parlerai un autre jour, il y a des subtilités. Moi, je ne suis pas cette sorte de personne qui cherche à entendre Dieu. Moi, je vois des tas de chrétiens qui disent « Dieu m'a dit, moi Dieu me dit très rarement des choses. » Très rarement. Pour ce qui est du troisième critère, tout ce que vous faites doit dépendre de la puissance de Dieu seul. Chaque personne a une puissance personnelle. Pour ma part, par exemple, encore, je me cite, pour vous montrer mes faiblesses, j'admire la puissance de la voix de Nicolas quand il prêche. Je voudrais pouvoir prêcher comme ça, mais si je prêche comme ça 5 minutes, j'ai plus de voix, parce que je ne suis pas fabriqué comme lui. Alors je ne cherche pas à l'imiter. Parce qu'en fait, ma puissance, comme la sienne d'ailleurs, ça n'est pas dans les décibels que j'aimais, ce n'est pas ça la puissance. Mais ça m'impressionne, je voudrais bien pouvoir. Je voudrais bien, mais je ne peux point. Faites en son nom des choses que vous ne pouvez pas faire vous-même. Si vous pouvez faire par vous-même, alors il y a un danger, c'est de faire sans s'appuyer sur Dieu. Sans s'appuyer sur Dieu. Mes frères et sœurs, le vrai disciple de Jésus, il agit en étant conscient de dépendre de Dieu. Et c'est là où je me repose. C'est là où je me retrouve. Pour ma part, depuis 40 ans que je sers le Seigneur, c'est là où je me repose. C'est que je cherche à être conscient de la présence de Dieu avec moi. Il est là, mais il faut que j'en sois conscient. Quand j'en suis conscient, alors je commets rarement des erreurs dans mon service pour le Seigneur. Parce que moi, je ne suis pas... J'ai entendu quelquefois la voix de Dieu, mais c'est très rare. Les visions aussi, c'est très rare. Par exemple, ma fille, plus facilement. Vous savez que Mélodie a vu un ange l'autre nuit, lorsque nous avons prié à 4h19, lorsque les portes se sont ouvertes. Vous vous rappelez, je vous ai parlé, je vous ai dit que c'était le moment de prier, parce que les portes s'ouvrent à ce moment-là, et que tous les satanistes se réunissent dans le monde entier pour maudire le monde, maudire l'Église et tout. Et Mélodie et son mari étaient ensemble en train de prier, et elle a vu un ange. Là, moi, ça, je suis rempli d'une sainte jalousie quand j'entends ça. Je voudrais tellement... J'en ai vu, j'ai déjà vécu des choses comme ça, mais c'est rare. C'est rare pour moi. J'arrive pas à fonctionner comme ça tout le temps. Dieu agit avec chaque personne d'une façon un peu différente. L'important, c'est que vous soyez conscient que Dieu est avec vous. C'est ça qui est important. Est-ce que vous vous souvenez de Moïse? Il a dit à Dieu que sa bouche et sa langue étaient embarrassées. Oui ou non? Exode chapitre 4, verset 10. Oh, ma bouche et ma langue sont embarrassées, je ne peux pas te servir, ce n'est pas possible et tout. Et puis vous regardez dans le Nouveau Testament ce que Étienne dit au sujet de Moïse. Acte 7, 22. Moïse fut initié à toute la science égyptienne et devint un habile orateur aussi bien qu'un homme d'action remarquable. Ah, il était un habile orateur. Qu'est-ce que vous voyez, vous, là-dedans? Une contradiction dans la Bible? Moi, pas. Je ne vois pas du tout une contradiction dans la Bible. Je vois que Moïse était un homme brillant, un brillant orateur, qui dit « je ne peux pas parler ». Et pourquoi il dit « je ne peux pas parler » Parce qu'il a appris là, tout à coup, une très grande leçon. Moïse, tout d'un coup, il est conscient qu'il va devoir parler de la part de Dieu en son nom. Et oulala, il ne veut pas agir par ses propres forces, par ses propres moyens, il ne veut pas... Vous comprenez, mes frères et sœurs? Moïse en arrive là. Oh, il n'aurait pas été brisé comme il était brisé. Il n'aurait pas été chassé de son pays natal, l'Égypte. Il n'aurait pas été destitué de sa place haute, très élevée dans la politique. Eh bien, il aurait tout de suite dit, ah ouais, j'y vais, je suis un habile orateur, je peux le faire. Non, non. Dieu l'a brisé. Et il ne savait même pas que c'était Dieu qui le brisait. C'était Dieu qui était en train de le préparer. À quoi? À une résurrection. Et pour arriver à la résurrection, il faut d'abord que Moïse y meure. Il faut d'abord que Moïse y soit réduit en cendres. Il faut d'abord que Moïse reconnaisse, soit conscient que par lui-même, il ne peut pas. Et là, c'était fait. Quand il s'est trouvé face à Dieu, il dit « je ne peux pas ». Il fallait la mort avant que Moïse puisse utiliser le nom de l'Éternel pour ouvrir la mer Rouge et pour faire toutes ces choses, pour ressusciter. Alors chez nous autres chrétiens, le baptême, c'est le symbole de notre mort. On est mort à nous-mêmes. Mais ça, c'est le symbole. Maintenant, il faut aussi la réalité, le brisement. Le brisement. Et alors, on va pouvoir se tenir sur le terrain de la vie de résurrection en Christ. Le terrain de la vie de résurrection, c'est en Christ. Vous vous rappelez ce que c'est être en Christ? C'est être comme cette page qu'on a mis dans une Bible, qu'on a mis dans un livre. C'est dedans. Est-ce que vous avez conscience d'être dedans? Là où la mort n'a plus de pouvoir sur vous. Là où vous pouvez dire, si je vis, c'est pour Christ. Si je meurs, c'est pour lui. En fin de compte, même la mort m'est un gain. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Regardez la vie des prophètes de la Bible. Chemin coûteux. Chemin de douleur, oui ou non? Regardez la vie des vrais prophètes de notre temps. Je ne parle pas de ces rigolos qui se promènent en Rolls-Royce et qui font des collectes, 3 collectes par réunion. Et ces menaçants prophètes d'aujourd'hui qui prophétisent des âneries. Je vois que tu vas faire un voyage, ma sœur. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Il y a une sœur ici qui a mal au dos. Oh oui, il y a une sœur. Évidemment, s'il y a 600 personnes, il y a toujours une sœur qui a mal au dos. On dit, oh, j'ai une révélation que j'ai mal au dos. C'est extraordinaire. Non, je ne parle pas de ces prophètes de bling-bling. Regardez la vie des vrais prophètes de notre temps. William Branham, par exemple. Un chemin difficile. Un chemin difficile. Je ne suis pas branhamiste, hein, mais j'aime bien ce prophète. J'aime bien cet homme avec ses failles, avec ses difficultés, avec son humilité. Dieu donne, puis Dieu ôte. Et pourquoi il fait ça? Pour que nous en arrivions à la base, pour qu'on arrive là où il peut enfin nous appuyer dans ce que nous faisons. Jean 15, 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Avant, Jésus avait dit, moi je ne peux rien faire sans Dieu. Puis ensuite il dit, vous, sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'homme, l'œuvre qu'il va faire en dehors de Dieu, ben oui, il va pouvoir faire quelque chose. Mais ça va être une œuvre comme du bois, ou comme du foin, ou comme du chaume. Ça ne vous rappelle pas une parole de Jésus? Et lorsque les bonnes actions, ces bonnes actions qu'il aura faites, seront passées à l'épreuve du feu, ben, il sera révélé que ce n'était rien du tout. Parce que quand ça brûle, le feu brûle le foin, ben, il ne reste rien du tout. Il faut que vos œuvres soient en or. Pourquoi? Parce que Jésus l'a dit, l'or y fond et puis on peut en faire quelque chose de très beau. Frères et sœurs, l'œuvre divine ne peut être faite que par la puissance divine. Cette puissance ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Et mes frères et sœurs, ici-bas, nous devons passer par la croix, par la mort à nous-mêmes et plus tard, nos œuvres passeront par le feu. Or, mes frères, ce qui ne supporte pas la croix aujourd'hui ne pourra pas supporter le feu plus tard. Rien ne peut survivre à la croix en dehors de ce qui est entièrement de Dieu en Jésus-Christ. Des gens arriveront devant le Seigneur disant « Mais j'ai prophétisé en ton nom, j'ai guéri des malades en ton nom, j'ai chassé des démons en ton nom. » Zéro, peanuts, rien du tout. Pourquoi? Oui, vous l'avez fait en mon nom. Mais je ne vous avais rien demandé. Jésus nous demande à nous de vivre ce que nous ne pouvons pas vivre par nous-mêmes. Et puis, ce n'est que par sa grâce que nous vivons. Ce n'est que par sa grâce que nous faisons. Si ce n'est pas par sa grâce, si c'est par nos moyens, si c'est par nos forces, c'est la chair. La vie que nous vivons est la vie de Christ vécue dans la puissance de Dieu. Et l'œuvre que nous faisons, c'est l'œuvre de Christ. Elle se continue au travers de nous par son esprit. À qui nous obéissons au Saint-Esprit. Si nous obéissons pas, je doute. Alors pour terminer, le but et l'objet de ce que nous faisons, vis-à-vis de quoi Dieu peut s'engager, ça doit être à sa gloire. Dieu n'est pas un homme. Si je dis, tout ce que vous faites, vous devez le faire à ma gloire, alors c'est bizarre. Hein, j'ai le culte de la personnalité, je suis un être bizarre. Mais Dieu n'est pas un homme. Il est interdit à l'homme de juger Dieu. C'est ridicule. On ne juge pas Dieu. Ce qu'on doit faire, on doit le faire pour la gloire de Dieu. Ça signifie que nous n'avons pas à en retirer une gloire pour nous-mêmes. Bon, il y a des joies profondes à servir Dieu. Il y a des moments merveilleux dans le service de Dieu, dans ce que nous faisons en son nom. Mais justement, cette joie, elle vient du fait que nous le glorifions, lui et pas nous. Si on n'a pas cet état d'esprit, on est en danger. Tout est à la louange de la gloire de sa grâce. C'est ce que la Bible dit, Éphésiens 1, 6, 12, 14. Tout est à la louange de la gloire de sa grâce. Alors toutes ces questions-là, mes frères et sœurs, elles doivent être réglées entre Dieu et nous, entre Dieu et vous, ces questions-là, ces choses que je vous ai dites ce soir. Avant que Dieu ne s'engage vis-à-vis de nous, quand nous nous servons de son nom. Et si nous avons réglé ces choses-là, alors Dieu signera. Tout ce que nous ferons, il signera. Et même les esprits déchus devront reconnaître notre droit de se servir de ce nom. Ils n'ont pas reconnu pour tout le monde. Quand ces rigolos sont venus, puis ils ont dit, au démon, au nom de Jésus que Paul prêche, les démons ont répondu, Jésus en connaît, Paul en connaît, mais vous, vous êtes qui là? Et la Bible dit, se sont rués, les démons se sont rués sur lui, et sur eux, ils les ont mis en pièces détachées. Frères et sœurs, on rigole pas. Quand Dieu s'engage vis-à-vis de quelque chose, il se manifeste avec puissance. Pourquoi? Pour prouver qu'il en est lui-même l'auteur. Il ne changera pas. Vous n'allez pas changer Dieu. Vous n'allez pas le changer. Il nous faut le contempler pour le comprendre. Hier, je parlais avec Philippe, je disais, beaucoup de gens veulent contempler Dieu dans sa gloire. Ils ne sont même pas fichus de contempler leurs enfants ou de contempler un beau ciel ou de contempler les choses qu'on peut voir avec les yeux et puis ils veulent contempler Dieu. Mais exercez-vous déjà à vous contempler vous-même, à observer que vous êtes une créature formidable. Exercez-vous à contempler votre famille, le goût des choses. Et puis après, vous allez pouvoir commencer à contempler Dieu pour le comprendre. Exercez-vous. Parce que ces voix, ce n'est pas nos voix. Ces voix nous semblent des fois mystérieuses, non? Et quand elles nous semblent mystérieuses, on peut comprendre que Dieu est mystérieux. Et à ce moment-là, Dieu nous dit, « Mes enfants, je suis mystérieux, faites avec. » Il n'y a que ceux qui cherchent qui trouvent. Mais beaucoup de gens cherchent des doctrines. Et ça ne vaut pas grand-chose. Ça vaut aller du bois. Ce qu'il nous faut, c'est trouver la personne. Trouver la personne et laisser la personne de Dieu agir en nous, agir par nous avec puissance. La manifestation de sa puissance confirme qu'il est avec nous. On sait qu'il est avec nous. Il nous faut être conscient qu'il est avec nous. Et ensuite, lui, il confirme qu'il est avec nous. On n'a pas à sentir. La chose, c'est croire, être conscient, manifester, afin d'avoir la confirmation, mais pas sentir, je vous en prie, pas sentir. Paul ne venait pas avec des discours persuasifs, mais avec une démonstration de puissance. Et Paul, le même Paul dit, soyez mes imitateurs. Il ne dit pas seulement ça aux pasteurs, aux évangélistes, il dit ça à tout le monde. Pensez à ces choses que je vous ai enseignées depuis quelque temps, elles conduisent exactement là où nous devons être, en Jésus-Christ. Ça peut paraître mystérieux quand on est dehors, mais quand on est dedans, tout c'est clair. Que Dieu vous bénisse. Jésus, je te prie de bénir mes frères et sœurs et de permettre qu'ils puissent véritablement ouvrir les yeux en toi et se réjouir et réaliser toutes les beautés, toutes les bontés, tout l'amour, toute la bienveillance qui est en toi pour eux et pour tous ceux qui se perdent sur cette terre. Merci Seigneur d'avoir ce plan merveilleux dans lequel tu nous associes, mais là où tu prends aussi tes responsabilités vis-à-vis de tout ce que nous faisons. Merci Seigneur de nous avoir donné cette possibilité de nous servir de ton nom, mais merci aussi pour la protection que tu mets autour de ce nom, afin que des fous, des malhonnêtes ne s'en servent pas avec puissance. Merci Seigneur Jésus, merci mon Dieu, tu es infiniment sage, et Seigneur, en toi, nous pouvons acquérir cette sagesse aussi. Merci Seigneur Jésus. Amen. Ne vous découragez pas, disciplinez-vous. Amen.